Sculpture fort intérieure avec Philippe Forest, je t'ai donné mon cœur, c'est une phrase magnifique. Une fois qu'on l'a fait, on peut dire qu'on a accompli ce qu'il y a de mieux sur Terre.
Oui.
Alors pourquoi cette chanson? Que vient-elle faire ici, monsieur mon invité?
Alors, dans ce beau pays de France où, dit-on, tout finit par des chansons, à l'époque où la tradition existait encore, qui voulait qu'à la fin des repas de famille, des banquets, etc., chacun pousse à son tour la chansonnette. Donc mon père avait coutume, c'était un peu son morceau de bravoure, de chanter cette chanson à l'intention de ma mère. Et donc ça me semblait être l'illustration parfaite pour ce roman qu'est Le siècle des nuages. Il chantait avec une très belle voix, très juste. Il aurait pu être chanteur, sinon d'opéra, du moins d'opérette, mais avec une diction un peu semblable à celle qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire qui nous paraît aujourd'hui très, très démodée.
Donc, magnifique transition pour entrer dans Le siècle des nuages, le roman que vous venez de publier aux éditions Gallimard. Extrêmement difficile de le résumer parce que, en fait, selon l'éclairage, on va trouver soit un livre historique sur toute l'aventure de l'aéronautique, soit un livre presque autobiographique vous-même dans les relations avec votre propre père, soit un livre un peu plus distancé sur ce qu'a été le destin de votre père. On va trouver aussi la grande histoire, puisque votre père va se trouver justement au moment de la Seconde Guerre mondiale, avec le choix entre Pétain, De Gaulle, ensuite il va se retrouver à Alger, ensuite il va être aviateur en Amérique pour aller bombarder l'Allemagne. Donc l'histoire de la guerre, une histoire d'amour magnifique avec votre mère, les relations père-fils, et puis, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, cette immense ouverture ensuite vers l'infini du ciel. Alors, je ne sais pas par quel bout vous-même vous allez le prendre, mais moi, je m'aperçois que vous avez joué admirablement, d'ailleurs, sur tous ces niveaux.
Là, vous me mettez en difficulté, parce que je ne suis pas beaucoup plus avancé que vous pour essayer de présenter ce livre. À l'origine, je voulais écrire un roman sur l'histoire de l'aviation. Et finalement, la part biographique ou autobiographique même a fini par s'affirmer. Et donc, du coup, je me suis retrouvé à essayer tant bien que mal. J'ai eu du mal au début. Et puis après, j'ai trouvé une forme.
Chasser le naturel, il revient.
Voilà.
Tagada, tagada.
Oui. Mais en même temps, c'est bien, je trouve, parce que je ne suis pas lecteur de livres dont l'auteur est complètement absent. Quoi. J'ai besoin que n'importe quelle fiction, même un livre à la troisième personne, ça soit quand même gagé sur l'expérience de quelqu'un. Et donc, c'est vrai que ça n'aurait pas eu de sens pour moi de faire un livre dont j'aurais été complètement absent. Et voilà comment j'ai essayé d'assembler ces différents éléments.
Alors, si vous prenez l'aviation, c'est parce que votre père était aviateur, oui. Donc aviateur de guerre au départ et ensuite dans l'aviation civile, Air France. Mais c'est aussi parce que, enfin, pour trois raisons, à mon avis, le père. Ensuite, parce que pour vous, l'histoire de l'aviation symbolise bien le XXe siècle.
Oui.
Et troisièmement, parce que l'aviation, c'est le ciel et que, comme nous l'avons compris, même si vous n'êtes pas croyant, cette ouverture vers le ciel est une respiration qui est indispensable à votre âme, même si on n'a pas d'âme.
Oui, absolument. Oui, et c'est même devant ce spectacle-là qu'on peut faire l'épreuve du grand rien ou du vide.
Ou du grand tout.
Ou du grand tout, comme vous voulez. C'est un peu comme le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. C'est le même objet, mais considéré depuis deux points de vue différents, sinon opposés. Oui, et d'ailleurs, le livre évoque un certain nombre de questions religieuses à la fin, puisque l'une des caractéristiques de mon père, c'était que lui, à la différence de moi, était quelqu'un de très croyant. C'était un catholique pratiquant. Et donc, j'essaye de m'interroger sur l'impact que la mort de ma fille a pu avoir sur la foi de cet homme. Et donc, Donc le livre se termine presque par un voyage en Asie mineure, comme on disait autrefois, enfin en Turquie, sur les terres qui ont autrefois été celles où Saint Paul et Saint Jean prophétisaient la bonne nouvelle de la résurrection. Donc il y a toute une réflexion à la fin sur ce que signifie éventuellement la foi dans ce rapport à l'impossible de la mort. Mais bon, c'est d'abord de l'histoire de l'aviation qu'il s'agit.
Oui, mais avec l'histoire, là je rebondis quand même sur ce que vous venez de dire, avec l'espoir de mieux comprendre votre père, qui était un homme par ailleurs extrêmement silencieux, qui a été bon père, le portrait que vous faites dans Le siècle des nuages, mais il reste énigmatique pour vous. Sa foi reste énigmatique, sa passion pour le ciel reste énigmatique, son amour de la vie reste énigmatique. À travers ce livre, vous avez résolu quelques énigmes ?
Non, je crois que j'ai réussi à mieux comprendre pourquoi je ne comprenais pas et ce que je ne comprenais pas. Bien sûr, c'est facile pour un romancier, on a tous les éléments à sa disposition, donc j'aurais pu faire un portrait très assuré de mon père, mais j'aurais été dans le mensonge, j'aurais été dans la falsification. Ce que j'essaye plutôt de faire, c'est de rendre compte justement de l'énigme qu'il constitué à nos yeux et qu'il constitue encore aux yeux de ses enfants et de ceux qui l'ont connu.
C'est un procédé romanesque, je ne dis pas là que vous l'avez fait pour cela, mais je veux dire, c'est une méthode que l'on trouve assez souvent chez vous, Philippe Forest. Vous dites une chose, ensuite vous comprenez bien, la seconde phrase va nous montrer qu'on peut l'éclairer différemment. Je ne dirais pas qu'ensuite, la troisième phrase, on ira dans l'antithèse de la première, mais on va de nuance en nuance, comme si, justement, mais ça rejoint une idée forte et philosophique chez vous, comme si la réalité dans son être le plus profond était toujours insaisissable.
Oui, c'est tout à fait ça. Oui. On parlait de bataille tout à l'heure. Un des grands mots du vocabulaire de bataille, c'est celui de non-savoir. Et c'est d'ailleurs un terme qu'il emprunte à d'autres philosophes et à des mystiques. Mais je crois que l'art, la littérature travaillent avec le non-savoir et sur le non-savoir. Donc c'est ce que j'essaye de faire dans mes livres aussi, c'est-à-dire ne pas imposer de certitude au lecteur, mais essayer de cheminer avec lui à travers un certain nombre de questions qui restent toujours ouvertes.
Ce qui demande d'ailleurs une très très grande habileté dans la construction des phrases. Il n'y a jamais de phrase véritablement affirmative. On y va par tâtonnement.
Oui, oui, c'est particulièrement sensible dans ce livre-là où j'ai essayé de trouver une phrase qui soit différente, par exemple, de celle que j'utilisais dans Le Nouvel Amour, qui avait un peu pour modèle le roman d'amour classique à la française, etc. Là, comme il y a une dimension épique au siècle des nuages, j'ai essayé de trouver une phrase qui soit à la mesure de ce projet épique. Bon, c'est peut-être un peu plus compliqué à lire, je ne sais pas, mais en tout cas, ça me semblait difficile de faire autrement.
Donc l'aviation, pour vous, est vraiment centrale dans l'aventure du XXe siècle.
Je crois que c'est le grand mythe du XXe siècle, la grande invention du XXe siècle, avec le cinéma, oui. Et puis c'est un mythe qui a une valeur tout à fait particulière et positive. Je crois que l'aviation, ça a vraiment été une utopie qui a été solidaire d'un certain nombre d'idéaux de progrès, d'idéaux démocratiques aussi. Et bon, tout ça appartient au passé, bien sûr, mais ça me semble important de rappeler peut-être à la vie ou à la mémoire cette grande aventure positive qui a été celle des
aviateurs. Positive et négative, les bombardements.
Oui.
Oui, Hiroshima, c'est l'aviation.
Oui.
Oui. Sinon, voilà, et Dresde, c'est l'aviation.
Oui, oui, aussi, absolument. Mais je parle de l'aviation militaire, forcément, puisque plusieurs chapitres du livre se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, mais l'aviation dont je fais l'éloge, c'est plutôt l'aviation civile, celle de l'aéropostale. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur Saint-Exupéry, parce que c'était essentiellement un pilote de ligne et qui s'est trouvé égaré en quelque sorte dans la Seconde Guerre mondiale, mais qui incarne ce que l'aviation a incarné de meilleur du temps de l'aéropostale au temps de la reconstruction des années 50 et 60.
Revenons-en au passage de l'histoire. Vous êtes très critique à l'égard des historiens et vous dites à plusieurs reprises que les historiens falsifient l'histoire. Pourquoi ? Comment ?
Je suis critique à l'égard d'une certaine conception naïve de l'histoire, mais les grands historiens ne m'ont pas attendu pour mettre en cause eux-mêmes le discours à l'aide duquel ils produisent leur savoir et leurs livres. Non, c'est peut-être moins d'ailleurs les historiens que je vise que certains auteurs de romans historiques, parce que dans le roman historique, il y a quand même une facilité qui consiste à raconter l'histoire en en connaissant déjà la fin. Quoi. Il y a une illusion rétrospective qui joue à plein. Donc si vous voulez, dans un roman, par exemple, prenons cet exemple puisque je l'évoque dans le livre, le discours du 18 juin 1940, l'objet discours du 18 juin 1940 est totalement différent selon qu'il est perçu par la conscience des contemporains, qui dans la plupart des cas ignorent qui est de Gaulle et n'ont pas bien sûr une vision très claire de ce qui va suivre. Et lorsque ce même objet discours du 18 juin 1940 est saisi dans le cadre d'un roman écrit en 2010 par un romancier qui, lui, sait où étaient les bons, où étaient les méchants, ce qui allait advenir, la Shoah, les meurtres de masse, etc., etc. Donc ce que je dénonce un peu, ce sont les effets de falsification, oui, que produit l'illusion rétrospective lorsqu'elle n'est pas questionnée par les historiens. Ou par les romanciers.
Oui, et vous montrez bien dans le cas de votre père qu'on peut être un grand patriote, ce qui était son cas, un homme courageux, il l'a prouvé, même s'il n'a pas pu mener à bout le combat qu'il voulait mener, mais enfin il était volontaire pour aller risquer sa vie pour sauver la liberté et sauver la France, qu'on peut être courageux, et néanmoins avoir cru pendant une période de sa vie, assez courte, mais enfin avoir cru quand même, que Pétain était le sauveur.
Oui, absolument, je montre
ce qui est le cas d'ailleurs de millions et de millions de personnes, il faut bien le reconnaître. Mais c'est quelque chose qu'on a souvent tendance à oublier aujourd'hui.
Oui, absolument. Non, j'ai voulu montrer... C'est pour ça que le terme de nuage est une métaphore qui vaut pour l'ensemble du livre. J'ai voulu montrer dans quel brouillard, en fait, se trouvaient les hommes du passé, notamment au moment de la Seconde Guerre mondiale.
Alors, comme vous le savez, ou plutôt vous l'apprenez, j'aime bien les fils rouges. Alors, les fils rouges de Philip Forrest, on l'a vu, bon, la mort de la fille. On a vu aussi combien la phrase exprime cette très grande difficulté d'essayer de saisir le réel dans sa totalité. Donc, l'éclairer petit à petit d'une manière différente à chaque fois. Et puis, il est évident que l'amour, à la fois l'amour sentiment et l'acte de l'amour physique, joue beaucoup dans vos livres. Et donc, nous allons voir le cas... Page 368, je crois.
Vous me surprenez parce qu'il y a très peu de scènes d'amour dans ce livre-là.
Oui, c'est très beau. Oui. C'est effectivement la première nuit d'amour de votre père et de votre mère. Avec ce cas, ils se sont fiancés sous les bombardements, au moment de la débâcle.
Ils se sont rencontrés le 17 juin 1940.
Oui, ils se fiancent à ce moment-là, ils se font une promesse. Et à cette époque-là, les promesses... Ensuite, le destin les sépare complètement. Ils se marient à distance, ce qui est quand même assez étonnant. Oui. Hein, c'est un cas assez rare, mais on accepte de les marier. Lui, votre père étant aux États-Unis, votre mère étant restée en France, ils sont quand même mariés et ils vont se retrouver. Et il va y avoir cette première nuit d'amour. On peut imaginer que cette première nuit d'amour va être maladroite ou malhabile. Et là, je trouve qu'il y a beaucoup de générosité et je dirais même, oui, d'acceptation du génie même de la vie dans cette phrase que je vais lire de vous. Vous allez peut-être la découvrir, vous avez l'air surpris.
Ça me dit vaguement quelque chose quand même. Ouais.
Donc ils se sont aimés, vous vous posez la question de savoir si les choses se sont bien passées, et puis à la fin vous dites cela, alors que chaque fois est toujours comme une première fois, le même saut dans le vide, le même abandon à une intimité inouïe et incompréhensible, depuis que l'humanité existe et autant qu'elle durera, dont il n'y a rien de plus à dire que ce qu'en savent déjà ceux, ils sont tous à égalité, qui un jour ou l'autre se sont aimés. Donc à partir du moment où il y a amour, il ne peut pas y avoir échec sur un plan physique la première fois. C'est un bel acte de foi.
Oui, et enfin...
Surtout quand il s'agit du père et de la mère.
C'est sûr que c'est une scène qui est délicate à raconter pour un fils, donc je me suis arrêté au seuil de leur intimité, mais il y a aussi une vision très naïve qui prévaut aujourd'hui, toujours du côté de l'illusion rétrospective. On parle de libération sexuelle et on s'imagine que nous sommes les premiers à savoir comment aimer. C'est quand même tout à fait arrogant comme conception. Il est évident que nous ne sommes pas plus avancés sur le terrain de la sexualité que ne l'étaient nos parents ou nos grands-parents, même s'ils avaient d'autres inhibitions, même s'ils avaient d'autres...
On connaît un peu plus la physiologie, mais peut-être que ce n'est pas par la physiologie qu'on réussit justement une nuit d'amour.
Voilà, pour l'essentiel, on est tous à égalité, je crois, quelle que soit l'époque où on vit.
Oui. Donc, un autre grand thème de ce livre, je vais dire c'est le temps qui passe, ça a l'air de le rendre banal, donc on va un petit peu affiner, c'est la grande difficulté qu'a votre père... de comprendre qu'on a changé d'époque. Parce que lui, un catholique de principe, un homme parfaitement loyal, fidèle, patriote, ne comprend pas le monde de cette fin du XXe siècle dans lequel il se trouve.
Et en même temps, il est sans amertume. Si je ne me rappelle pas, et je le dis dans le livre, je ne me rappelle pas l'avoir entendu condamner le présent lorsqu'il le voyait changer. Mais il y a un sentiment nostalgique et mélancolique, malgré tout, que j'ai essayé de rendre. Oui.
Sans qu'il l'exprime.
Sans qu'il l'exprime.
C'est très difficile, parce qu'il n'y a pas de phrase de lui pour le dire.
Non.
C'est son attitude, un geste, un regard.
Mais j'ai essayé de montrer la grande pesanteur du temps qui s'abat sur un homme, notamment dans son cas au moment de la retraite, parce que la vie de pilote de ligne est une vie très active. Il a eu la chance de rester suffisamment en bonne santé pour piloter jusqu'à l'âge de 60 ans. Et du jour au lendemain, donc, tout ça s'arrête et on est livré vraiment à une sorte de grand désœuvrement. Je crois que j'ai pu écrire ça aussi parce que moi-même, je commence à plus être tout jeune, je vais avoir 48 ans et donc je commence à sentir moi-même les effets de cette perception-là du temps. Je pense que j'aurais pas pu écrire un livre comme ça il y a 10 ans ou 15 ans. Je pense que c'est même ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est-à-dire les prémices d'une certaine conscience du vieillissement et du temps qui passe.
La mort de votre fille l'a beaucoup marqué, vous l'avez dit. À ce moment-là, il s'interroge sur l'éternité. Vous-même, vous faites une enquête, vous l'avez rappelé, sur les traces de saint Paul, sur cette question-là. J'ai pressenti, je ne sais pas s'il y a une phrase qui le dit, mais j'ai pressenti que quelque chose de très, très profond était cassé en lui à partir de ce moment-là. Mais il ne s'agit pas de la perte de la foi.
C'est-à-dire, je fais des hypothèses et comme je n'en ai jamais vraiment parlé avec lui clairement, parce que je pense que ça aurait été trop douloureux d'en parler à la fois pour lui et pour moi, je fais des hypothèses, mais sans pouvoir véritablement répondre à la question de savoir dans quelle mesure cette expérience avait ou non ébranlé sa foi. Je pense que, de toute manière, j'essaye d'être très honnête à l'égard de la foi chrétienne, enfin aussi honnête qu'on peut l'être quand on n'est pas chrétien soi-même, mais je crois que quand même la religion catholique, c'est une religion qui place en son cœur, c'est pas l'essentiel, mais quand même le mystère de la passion, quoi. C'est-à-dire le moment de la grande déréliction, le Père, pourquoi m'as-tu abandonné, etc. Donc c'est une religion qui, tout en étant tournée vers la promesse de la résurrection, parce que je vous vois un peu tiquer.
Oui, parce que ça dépend des époques, ça. Ouais. C'est vraiment le christianisme du 19e siècle, c'était pas le christianisme médiéval, enfin si, au 14e, avec la grande peste, oui, mais pas au 12e. Et ça n'est pas le christianisme oriental du tout, puisqu'on représente beaucoup moins le Christ en croix, on représente au contraire le Christ en gloire dans la résurrection. Donc le christianisme est quand même assez large pour ne pas être résumé à un homme souffrant sur une croix.
Non, mais disons que le génie du christianisme, pour parler comme Chateaubriand, est suffisamment grand pour aménager des lectures contradictoires et différentes.
Selon les époques.
Voilà.
Oui, puisque c'est quand même le reflet d'une époque. Ouais.
Mais donc, il y a aussi dans le christianisme, d'une certaine manière en tout cas, une méditation quoi, sur le tragique de la mort.
Oui, dans toute religion
d'ailleurs. Oui, bien sûr.
Oui. Oui, plus ou moins, plus ou moins. Peut-être plus ici que dans le bouddhisme. Enfin, le bouddhisme, une des quatre grandes expériences du Bouddha, c'est quand même celle de la mort. Et c'est ce qui le fait partir du palais de son père. Je pense qu'aucune religion, d'ailleurs, aucun système de pensée ne peut éluder la question sur la mort.
Oui, bien sûr, c'est l'une des questions essentielles.
Nous sommes d'accord. Le nouvel amour. Alors, j'ai lu ce texte avec beaucoup de passion et beaucoup d'enthousiasme. Donc, on va retrouver la mort de Pauline et on va retrouver un homme qui vous ressemble, puisque effectivement, il a perdu Pauline, mais néanmoins, qui est probablement dans une histoire qui n'est peut-être pas la vôtre, qui est la vôtre ou pas la vôtre. Ce serait indiscret de vous poser la question. Mais l'histoire d'un homme entre deux femmes, entre celle qui est la mère de sa fille et avec laquelle il ne peut pas ne pas partager quelque chose de fondamental qui a été justement cette immense douleur, et puis une autre femme avec laquelle il a une expérience à la fois amoureuse et érotique très très forte, incapable de trancher.
Oui, c'est le sujet du livre, oui. Et qui, jusqu'à la toute dernière page, qui laisse le lecteur et l'auteur aussi dans une certaine forme d'indécision.
Donc c'est un livre sur l'impossibilité de choisir.
Je crois que c'est un livre paradoxalement sur la fidélité. C'est tous les personnages, le personnage masculin et les deux personnages féminins, sont tiraillés par des fidélités contradictoires. Mais c'est aussi un livre sur... On parlait du vieillissement. Avant de devenir trop vieux, je voulais peut-être aussi écrire un roman d'amour. Et c'est un livre qui s'inscrit dans une certaine tradition de la littérature amoureuse française, avec le désir de toucher à cette expérience-là, qui est très, très difficile à dire pour un romancier. Voilà.
Oui, un amour-sentiment qui est aussi très mêlé à un érotisme assez brûlant.
Oui, oui,
c'est pas brûlant, je veux dire chaud, brûlant dans le bon sens du terme là. C'est...
oui, oui, il y a des descriptions assez physiques. En même temps, moi, je trouve que c'est un livre. Enfin, je sais pas. Je
si
sais...
vous alliez dire pudique.
Pudique.
J'ai vu le P sur votre lèvre.
Absolument, je trouve que c'est un livre très délicat et assez pudique, même s'il touche à cette expérience sexuelle. Puis j'essaye aussi de rendre compte de l'érotisme masculin d'une manière un peu différente. Moi, je trouve dans les livres écrits par des hommes, on est tantôt dans l'exaltation priapique, tantôt dans la débandade un peu misérable. Et je voulais essayer de dire le plus naturellement possible ce qu'il y a de formidable dans le flamboiement amoureux, mais sans sacrifier à ces deux mythologies opposées qui me semblent là encore assez falsificatrices. Quoi.
Vous réussissez très bien vos scènes d'amour, je trouve.
Ben, merci. Je suis content que vous me disiez ça, parce que c'est un livre qui a suscité des réactions parfois embarrassées de la part des lecteurs. Donc
Et pourquoi ?
Oh, pour toutes sortes de raisons, mais notamment, je crois, parce que c'était un livre qui était en trop fort contraste par rapport à mes ouvrages précédents. Donc, il a surpris les gens qui s'étaient fait une certaine idée de moi à travers la lecture de L'Enfant éternel. Et puis, peut-être que justement, ce que je dis de l'amour est quelque chose à quoi tous les lecteurs ne sont pas prêts, je ne sais pas.
Parce qu'il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que Lou, donc, qui est le deuxième personnage féminin après la femme légitime, Lou est à la fois incompréhensible pour le narrateur. Il ne comprend pas pourquoi, alors qu'il est prêt pour elle, à ce moment-là, elle commence à s'éloigner. Mais je dirais qu'elle est aussi incompréhensible pour le lecteur, car vous ne donnez pas de clé. On ne sait pas à la fin qui est Lou. L'aime-t-elle ? Si elle l'aime vraiment ? Elle devrait dire oui au moment où il se sent prêt à vivre avec elle.
Oui,
et
oui.
C'est à ce moment-là qu'il s'éloigne. Oui. Mais peut-être qu'elle revient, on n'en sait rien, puisqu'on ne parle pas de la fin.
C'est-à-dire, elle est incompréhensible autant que tous mes autres personnages, autant que le personnage du père dans Le ciel des nuages, par exemple. C'est, là encore, je crois qu'il y aurait une très grande malhonnêteté de la part de l'écrivain à vouloir dire le vrai sur ces personnages, alors que ce vrai sur autrui, nous ne le connaissons jamais. Je pense à cette phrase de Proust qui dit que dans l'acte de possession physique, on ne possède jamais rien. Mais je crois que c'est cette impossibilité de posséder autrui qui est d'abord la vraie forme et le vrai visage de l'amour et ce que doit rendre le texte littéraire s'il veut être fidèle à la vérité.
Ainsi se termine Fort Intérieur, une émission d'Olivier Germain-Thomas, avec comme invité Philippe Forest, qui a choisi les musiques que vous avez entendues. Au milieu de l'émission, donc, une chanson qui faisait revenir son père au cours de cette émission, « Je t'ai donné mon cœur », chantée par André Baugé, et actuellement, « Les djinns » de César Franck, interprétée par Bertrand Chamaillou. Nous avons parlé essentiellement du Siècle des Lumières de Philippe Forest, donc ce roman qui est un des romans de la rentrée publié aux éditions Gallimard en 2010. Nous avons parlé d'un livre dont je vous recommande vivement la lecture, La beauté du contresens, publié aux éditions Cécile Defaux, Nous avons parlé de ce nouvel amour de Philippe Forest que j'ai dévoré, si on peut dévorer un livre, enfin il est encore entier. Nous n'avons pas parlé d'autres ouvrages de vous, mais enfin vous trouverez tout cela sur notre site sur France Culture, notamment votre introduction au surréalisme, vos ouvrages sur Tel quel, sur Philippe Solers, un autre essai sur la littérature, le roman, le réel et autres essais que vous avez publié également aux éditions Cécile Defaux, tous les enfants sauf un, et puis tous les livres que vous avez publié sur le drame de votre fille. Alors, comme vous le savez, vous pouvez très bien retrouver toutes ces informations sur notre site, sur France Culture. Vous pouvez télécharger cette émission pendant une semaine. Vous pouvez la réécouter pendant un mois sur notre site. Vous pouvez nous écrire. Et dans quelques instants, le journal de France Culture. Au revoir.